Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. En 2022, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, a décidé de traiter sous forme de 12 documentaires inédits les problématiques du monde rural. L'Occitanie reste une grande région rurale. 4 habitants sur 10, précisément 39%, habitent en zone rurale, où le chômage est moins important qu'en ville. Ces 4 habitants sur 10 représentent quelque 2,3 millions de personnes sur la population totale de 6 millions. 92% des communes d'Occitanie, soit près de 5000 d'entre elles, se situent dans l'espace rural. Elles représentent, par ailleurs, plus de 66 000 km², soit l'immense majorité du territoire régional. Les radios sont sorties des villes pour une virée dans nos campagnes, pour recueillir les témoignages des acteurs de nos ruralités, aussi riches que diverses. 12 documentaires sont disponibles sur les thèmes suivants: la désertification médicale, la disparition des services publics, l'intégration dans nos villages, l'électronisme, les difficultés de l'agriculture, la viticulture et le climat, l'accès à la culture, l'exode des populations, la campagne ça nous gagne, l'intercommunalité, où sont passées les écoles et les métiers qui se perdent. Aujourd'hui, l'intercommunalité.
Depuis 2014, les regroupements intercommunaux sont devenus des obligations légales. Pour les communes, elles permettent de mutualiser les ressources et d'élargir l'accès à des équipements ou services structurants. Sur le papier, l'intercommunalité se présente comme un véritable atout pour les communes et leurs habitants, qui se voient enrichis de cette fusion. Plus grande cohérence dans l'implantation des équipements publics, organisation horizontale qui favorise les synergies, telles sont les ambitions des regroupements intercommunaux. Mais qu'en est-il des faits ? Comment les habitants vivent-ils la solidarité intercommunale ? Quel partage de compétences entre communes et intercommunalités ? Nous avons rencontré plusieurs acteurs locaux pour réfléchir ensemble aux enjeux de cette révolution silencieuse. Nous écoutons en premier lieu Thomas Barbie de Toulouse Eurométropole qui nous précise ce que l'intercommunalité recouvre.
Il faut bien comprendre que c'est quelque chose de complexe et de très varié, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on se perdrait au niveau technique, mais c'est premièrement une question de taille, c'est-à-dire c'est un regroupement de plusieurs entités publiques. Alors la plupart du temps ce sont des mairies, par exemple la métropole c'est une réunion de plusieurs mairies. Il y en a 37 ou 47, je ne sais plus, je vais peut-être dire des bêtises. Mais donc Toulouse, Aucamville, Blagnac, etc., qui se réunissent pour partager des moyens financiers, matériels, humains, de terrain, etc. Mais il n'y a pas que ce type d'intercommunalité. Donc, ils sont entre des mairies. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des syndicats mixtes et tout un tas d'organismes qui ont tout un tas de noms différents. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans pour ne pas vous perdre. Mais ça peut être, par exemple... au sein de la métropole, il peut y avoir d'autres petites intercommunalités pour des domaines spécifiques. Par exemple, à Toulouse Métropole, il y a une intercommunalité à l'intérieur, mais qui touche aussi l'extérieur, sur les déchetteries qui appartiennent donc à DECOCET, qui est un organisme public d'intercommunalité, dans lequel il y a la métropole, mais aussi d'autres intercommunalités, et qui donc gère les déchetteries de Toulouse Métropole et des alentours. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu plusieurs lois qui se sont rajoutées les unes aux autres pour transformer. Il y en a eu au moins 3 qui ont permis d'arriver là où on en est aujourd'hui. Et quand je suis rentré dans la fonction publique il y a une dizaine d'années, il y a une formation obligatoire quand on rentre dans la fonction publique ou quand on change de catégorie, c'est B ou A. Et lors de cette formation, donc faite par des agents publics, hein, on nous a parlé du millefeuille territorial. Alors sur la métropole, on a 2 très très gros services qui sont le ramassage des déchets, plus les déchetteries puisqu'elles sont parties à DECOCET qui est un autre organisme public, c'est une obligation de la loi européenne. On a la propreté, donc les personnes qui vont nettoyer les rues, que ce soit avec le balai, que ce soit avec les machines, donc les balayeuses automatiques, les laveuses, etc. On a les maçons paveurs, donc qui vont faire des petites, entre guillemets, petites réparations sur les routes. Il y a après tout un tas encore d'autres services, hein. Mais voilà, les plus gros sont ceux-là. Mais après, on a aussi du social, on a des accueils jeunes, on a des dizaines et des dizaines, hein, l'électricité, l'éclairage public, les routes, tout ça. Oui, les routes aussi, on a les routes métropolitaines sont gérées par la métropole, alors certaines, puisqu'il y en a qui appartiennent encore au département, mais celles qui ont basculé sous la compétence métropole sont gérées par la métropole, voilà.
Écoutons maintenant André Maurer, le maire de Saint-Hilaire, une commune de plus de 1200 habitants et adhérente à la communauté d'agglomération de Murtin dans la vallée de la Garonne.
L'intercommunalité, c'est vieux comme les communes. Les communes n'ont pas attendu les récentes lois pour mettre en commun leurs capacités. C'est grâce à l'intercommunalité que l'électrification des campagnes a eu lieu. C'est grâce à l'intercommunalité que l'adduction d'eau potable aussi a eu lieu dans les villages, dans les maisons, ou même y compris dans les grands bourgs. Voilà. Donc c'est vrai. Et l'intercommunalité a eu lieu aussi dans le milieu pédagogique, puisque les regroupements pédagogiques intercommunaux ne datent pas d'aujourd'hui. Voilà.
Mais que permettent les regroupements communaux pour les communes ? Bénédicte David, à la fois usagère et professionnelle ayant évolué dans la communauté de communes des Coteaux de Bellevue, au nord de Toulouse, nous partage son expérience.
Alors, de ma connaissance, en 2014, quand il était question justement que toutes les communes appartiennent à une interco, à une PCI, et qu'on a vu les avancées, moi je suis dans un petit village de 2000 habitants, à peu près 2000-2500, où il ne se passait pas grand-chose, c'était un village vieillissant. Et depuis 2014, il y a eu des travaux de partout, on a refait des trottoirs, il y a eu des ronds-points, ça s'est redynamisé à plein de niveaux. Il y a des constructions qui se font, il y a des nouveaux arrivants sur le village. Donc voilà, ça redynamise vraiment le village, je trouve. Toute l'interco, fait les villages même alentour où moi j'ai travaillé, des personnes, de collègues, d'amis que je connais aussi autour, ça a redynamisé effectivement plein de projets. Ça a enrichi par la coopération en fait de ces communes. Ça a enrichi plein de projets donc au niveau financier. Donc ça a donné des moyens pour arriver à développer certains projets. Je pense qu'il y en a pour beaucoup aussi, ça dépend de la créativité des personnes qui sont à la base de ces projets-là aussi. Mais voilà, ça a énormément enrichi quand même, redynamisé donc, la plupart des petits villages. Effectivement, c'est quand même le but de ces intercos, c'est que ça regroupe des moyens financiers, même de services vraiment de proximité.
Dans la crèche intercommunale où Bénédicte a travaillé, les ressources apportées par le regroupement des communes ont d'abord permis une augmentation des places disponibles pour les enfants.
Il y a des structures effectivement, donc crèches intercommunales, mais ça peut être aussi de communes, donc juste la mairie. Et ensuite, il y a le système privé aussi, des crèches privées, des crèches associatives ou des crèches d'entreprise. Donc ça, c'est le secteur privé. Mais effectivement, sur Toulouse, par exemple, il y a des crèches de mairie de Toulouse ou Toulouse Métropole. Voilà. En général, c'est des grosses structures qui accueillent beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont un agrément très important. Voilà, après, ça peut être dans les villages ou des petites villes, des structures beaucoup plus petites. Et là, ça va être plutôt mairie, mais ça peut être aussi interco, et parce qu'elles sont rattachées à un projet vraiment de territoire, de développement, d'accès pour les familles, de moyens de garde pour leurs enfants. On était à 4 crèches sur l'interco et il y a une 5e qui va ouvrir. Alors, pareil, qui est partagé entre guillemets, entre donc services interco et crèche d'entreprise. Elle va être mixte, en fait. Habitant un petit village où, justement, il y avait très peu de modes de garde. Moi, quand mes enfants étaient petits, il y avait les assistantes maternelles et c'est tout. Et donc, je n'avais pas de moyen de garde autre que celui-là, hein, qui était très bien aussi. Mais les assistants maternels sont vite overbookés. Donc, quand on a été rattaché en communauté de communes, ça a permis d'accéder aux crèches d'Interco, en fait, de l'Interco. Donc, création de crèches. Moi, j'ai fait partie d'un projet d'ouverture de crèches à Montberon. Et ça a permis aux familles des villages autour, qui avaient très peu de modes de garde, de pouvoir être accueillies dans ces crèches-là. Donc, les réparties sur les quatre de l'Interco. Donc, c'était très intéressant pour eux. Ça a apporté un soutien pour ces familles qui n'avaient pas forcément aussi les moyens d'aller chez une assistante maternelle ou qui n'avaient pas de proposition justement par leur employeur de crèche d'entreprise. Et donc voilà, ça a été un point très très positif. C'est vrai que moi je l'ai vu, une famille qui demande un accès pour un mode de garde en urgence. Alors on a des places vraiment réservées pour des cas très particuliers. Mais une famille qui se retrouve, l'assistante maternelle lâche cette famille-là, par exemple, et donc il leur faut un mode de garde du jour au lendemain. Ah ben nous, on n'a pas de place, mais on va voir sur les autres crèches de l'Interco, ou on fait appel même aux crèches si sur l'Interco, il peut y avoir des crèches privées, ou des MAM aussi, les maisons d'assistante maternelle. Voilà, on essaye quand même, il y a effectivement une solidarité. Je ne pense pas que ce soit lié à l'Interco, mais ça fait peut-être partie des missions des Interco, de permettre à l'usager de répondre à leurs besoins. Voilà, il y a plus de possibilités, en tout cas. Donc, on va utiliser tous les leviers qu'on a, et on en a davantage, puisque maintenant, on est regroupé. Donc, il y a ce service, ce système de coopération entre communes. Voilà. Donc, ça, oui, effectivement. Je l'ai vu aussi au CCAS. Nous, là, pour l'instant, on ne peut pas répondre à votre demande, ou même au niveau de la Maison France Service. Si vous, pour vous, on est un peu loin, vous avez Maison France Service à tel endroit qui peut vous accueillir aussi, ou telle mairie pourra répondre à votre demande. Voilà, on réoriente aussi, parce que ça fait partie aussi de nos missions, de réorienter pour que l'usager puisse trouver une réponse le plus facilement et le plus rapidement possible.
Thomas Barbie de l'Eurométropole de Toulouse explique en quoi les regroupements intercommunaux sont selon lui positifs surtout pour les petites communes.
Là où ça peut être positif, c'est sur des petites communes où effectivement, on va prendre un village de 200 habitants, n'a pas du tout les moyens de se payer une laveuse automatique, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà. Par contre, 10 villages de 200 habitants qui s'associent peuvent la payer. Et effectivement, le village de 200 habitants, je ne sais pas les chiffres, on va dire en une heure la balayeuse est passée. Bon, est-ce qu'il y a besoin d'une balayeuse pour nettoyer une heure? On ne va pas passer toute la journée à nettoyer les rues d'un village de 200 habitants, c'est logique. Maintenant, s'il y en a 10 ou 15 qui s'associent, là, la balayeuse devient rentable. Effectivement. Et l'agent qui va être dessus va avoir du travail toute la journée parce qu'il va passer de commune en commune. Maintenant, et il y a des rapports qui le montrent depuis longtemps, dès qu'on dépasse entre 4000 et 5000 habitants, ce n'est plus rentable. Et ils nous avaient vendu cette rentabilité, bien entendu, à chaque fois qu'ils ont passé des lois, la dernière étant sur la fusion des régions. On sait que ce n'est pas rentable et on a l'aberration de la fusion des régions.
Progressivement, les maires des communes cèdent leurs compétences aux intercommunalités. Quels avantages de compétences entre communes et intercommunalités existent-ils? D'après M. Morère, le maire de la commune de Saint-Hilaire, le partage des compétences est en théorie très clair.
Disons que sur les communes, normalement, les compétences sont bien partagées. La loi dit « vous faites ça ». Et ensuite, même les contrôles de légalité, quand même, sont assez sourcilleux là-dessus. Et si on confie la voirie, la commune n'a plus à toucher à la voirie. Voilà. C'est la communauté d'agglo ou l'intercommunalité qui le fait. Non, sur le partage des compétences, c'est quand même assez clair. La loi là-dessus est très claire.
Pourtant, en pratique, ces partages de compétences peuvent mener à des complications, comme l'explique Thomas Barbie.
Et l'objectif, alors certains sont fixés par la loi et d'autres sont au choix des collectivités, donc des mairies. Là aussi, c'est très complexe. en fonction de la taille de l'ensemble des mairies, il y a des compétences obligatoires et des compétences optionnelles. Et on peut choisir parmi quatre et on en prend deux. Enfin, c'est vraiment c'est un jeu très très compliqué. Je pense que même dans Kaamelott, les règles sont plus simples. Syndicat mixte, c'est une intercommunalité, c'est le terme juridique. Ça va être sur une seule, par exemple, sur une seule compétence. Prenons par exemple l'eau, qui n'est peut-être pas dans la compétence métropole, là en l'occurrence Salé, hein, mais on va prendre pour l'exemple, qui ne l'est pas. Et il y a deux communes qui veulent s'associer pour l'eau et vont faire un syndicat mixte. Elles peuvent être dans une autre intercommunalité, bien entendu, plus grande, avec d'autres compétences. Mais voilà, donc en fonction des compétences et en fonction de la taille des communes, c'est vraiment un jeu de règles très très compliqué, où en fonction de chaque cas, il y a des règles. Donc par exemple pour la métropole, il y a des règles très, très spécifiques. Il faut un certain nombre d'habitants dans l'agglomération principale. Il faut un certain nombre d'habitants dans la métropole. S'il y a assez d'habitants, bien sûr, on appelle ça à ce moment-là métropole. Il faut du coup partager un certain nombre de compétences obligatoires. Il y en a peut-être 15, 20. Et certaines qui sont optionnelles, mais qu'on est obligé de prendre. Par exemple, on en a 4, 4 et 4 optionnelles. Et on est obligé de prendre 2, 2 et 2 à chaque fois. Parce que il y a cette taille-là d'habitants. On va prendre des plus petites intercommunalités, ce ne sera pas du tout les mêmes obligations. Donc c'est très varié en fonction du territoire et ça, c'est très compliqué. Mais même les agents eux-mêmes ont mis des années, pour la plupart, à faire le pas. Puisque c'était, quand les intercommunalités ont été créées, c'était toujours des agents de mairie qui ont basculé, ici dans la métropole, mais ailleurs dans... Enfin d'ailleurs c'était le Grand Toulouse à l'époque, puisque la loi MAPTAM n'était pas encore passée. Et donc quand ils ont basculé au Grand Toulouse, ça a été très compliqué. Il y a eu des pertes financières d'ailleurs pour certains agents, il y a eu des règles différentes. On nous parle souvent de doublons entre les communes et les intercommunalités et on ne comprend pas les rôles respectifs de chacun. C'est normal, puisque en fait les rôles sont les mêmes à la base et ils sont répartis une fois que l'intercommunalité est créée. Et donc il ne peut pas normalement y avoir de doublons, puisqu'une compétence, on va dire par exemple le ramassage des déchets, soit aller à la mairie, soit aller à l'intercommunalité. Elle ne peut pas être aux deux légalement. Alors, si certains maires, après, contournent la loi, je ne me prononcerai pas dessus, hein, ils se débrouillent avec la justice, mais dans la loi, ils ne peuvent pas faire les deux. Donc, il ne peut pas, normalement, y avoir de doublons. Mais, encore une fois, vu que ce n'est pas pareil en fonction des intercommunalités, il suffit de déménager et de se dire « Oui, mais avant, ça marchait comme ça chez moi. Le ramassage, c'était la mairie. Et puis, les cartons, c'était l'intercommunalité. Ils passaient le jeudi. Et ben, ici, c'est l'inverse. Il faut appeler. » Enfin, voilà, c'est différent en fonction de chaque intercommunalité. Ce qu'on appelle la libre administration des collectivités, qui est dans la Constitution. Et pourtant, d'ailleurs, qui n'est pas tout le temps respectée par l'État. Mais bon, il y a des recours là-dessus, notamment sur les 1607 heures.
Sur le plan culturel et éducatif, les communes et les communautés d'agglomération n'en ont souvent pas la compétence. Donc, par exemple, nous, sur notre communauté d'agglo, tout ce qui est culturel, il n'y a rien. Pas un sou de la communauté d'agglomération va à la culture, si ce n'est que des aides peut-être ponctuelles sur des aménagements, intercommunaux, de grandes salles, de spectacles, ou des trucs comme ça, mais sans plus, quoi. Voilà. Et notamment aussi sur la jeunesse. Par exemple, notre communauté d'agglo n'est pas du tout compétente sur les questions de la jeunesse. Ça pose quand même un problème, puisque ça s'arrête à 12 ans à l'école, à la fin, juste à la fin de l'école élémentaire, quoi. Et ça, c'est, moi, je le regrette un peu, parce que les jeunes, on aurait besoin, pour s'occuper, pour prendre en compte les problématiques de la jeunesse, on aurait besoin d'avoir une vue d'ensemble aussi, sur le canton, avec les lycées, les collèges, etc. Et ça, c'est dommage, c'est un manque que je regrette beaucoup.
André Maurer, le maire de Saint-Hilaire, explique en quoi les intercommunalités ont plusieurs limites et des lacunes dans leur fonctionnement et organisation interne. Par exemple, le regroupement de certaines communes n'est pas toujours cohérent. Il revient sur les critères de ces fusions.
Alors, bon, les premiers critères, c'est quand même la volonté des communes, hein, d'aller là. Et le second critère, souvent, pour, par exemple, comme l'ouest du Muretin agglo, ça a été fait en fonction aussi des influences politiques, notamment départementales, via la CDCI. Alors la CDCI, c'est une commission départementale, de la coopération intercommunale, voilà, et qui gère tous ces mouvements, que ce soit pour les syndicats ou que ce soit pour les communes, voilà. Et ça, ça s'est fait sur, au département. Il n'y a pas eu de débat au sein de la population non plus. Hein. Les communes ont été mises devant le fait accompli. Alors, c'est là un peu le problème et le, disons, un marqueur mauvais de l'intercommunalité actuelle. C'est que souvent, ça s'est fait sur des considérations simplement administratives, voire politiques. À l'heure actuelle, les intercommunalités, et surtout après la loi NOTRe, qui a été faite dans les années 2000, a fait des regroupements purement administratifs. Voilà, donc ça c'est plus embêtant parce que il y a des, ça regroupe des territoires hétérogènes. Et maintenant, on voit les limites de ce regroupement avec des problématiques difficiles à résoudre. Et donc là, ça a été la loi NOTRe pour avoir des communautés pour reformer un peu tout, réadministrer le territoire français, en créant des métropoles, des communautés d'agglomération, des communautés de communes. Et donc les communautés d'agglomération ont été créées ipso facto après la loi et les décrets d'application. Et ça fait que dans les départements, on a regroupé des communautés de communes, on a regroupé des territoires qui n'avaient pas de logique géographique. Pour la communauté d'agglomération du Muretin, on a regroupé toute la partie ouest de la limitrophe du Gers avec le Muretin. Alors que tous les gens vont de ce côté-là, vont par la route, par les rivières, vont directement sur Plaisance, Tournefeuille. Et donc, on a créé, on a artificiellement, comme ça, des zones auxquelles les gens, ils vont emmurer. Mais bon, mais il n'y a pas de logique pour se déplacer à Muret. Et ça crée quand même pas mal de problèmes ensuite pour l'administration, pour les services pratiques. Voilà. Et surtout des communautés qui étaient habituées à travailler d'une façon, qui étaient obligées de se mouler après à un fonctionnement beaucoup plus, disons, vaste, plus large et plus, comment je pourrais dire, formaté que ce qu'ils faisaient auparavant. Et ça crée beaucoup de dissensions. Voilà.
Thomas Barbie, Eurométropole de Toulouse.
Alors, ils sont variés. Ça va dépendre, en fait, effectivement, géographiquement, de qui veut s'associer à qui. Par exemple, à Toulouse, on voit que la métropole s'étend énormément au nord, à l'est et à l'ouest, mais pas du tout au sud, puisque Ramonville est dans une autre intercommunalité. Pourtant, elle touche Toulouse. C'est une décision des maires, alors souvent politique, hein, en fonction du clivage gauche-droite, bien évidemment, ou parfois des relations humaines à l'époque de la création. Deux personnes qui ne s'entendent absolument pas, qui veulent, parfois avec un ego surdimensionné, régner et donc ne pas avoir à rendre des comptes à l'autre parce qu'il a une plus grosse mairie, etc. Il peut y avoir une séparation comme ça. Donc il n'y a pas obligatoirement de séparation logique dans la géographie. Et puis après, bien entendu, avec l'histoire, il peut y avoir des changements de mairie, tout simplement, et du coup, des complications.
Nos interlocuteurs ont également soulevé des lacunes dans le fonctionnement politique des intercommunalités. Thomas Barbie.
Comment ça s'organise au quotidien? Je vais y répondre uniquement avec l'exemple de Toulouse Métropole, parce que je ne peux pas savoir malheureusement comment ça se passe partout ailleurs. On y voit des aberrations. On y voit des aberrations. Aujourd'hui, dans Toulouse Métropole, Toulouse domine totalement la métropole. Déjà, rien que si les élus de Toulouse représentent quasiment plus à eux tout seuls que tous les autres élus de l'intercommunalité. Alors, il suffit qu'il y ait une ou deux mairies qui soient vous imaginez, hein, sur 37, une ou deux qui soient du même côté que Toulouse, et il y a la majorité. Donc, au niveau démocratique, déjà, c'est pas génial. Et ensuite, au quotidien, comment ça fonctionne? Alors, il y a des choses qui fonctionnent bien, hein, bien évidemment, et heureusement, mais on y voit aussi des aberrations. Les impacts positifs, ben, malheureusement, il faut bien lier au contexte politique. C'est-à-dire que c'est plusieurs maires, ou mairesses hein, bien sûr, qui se réunissent et donc qui ont une politique de droite, de gauche, mais qui ont une politique et une ligne directrice. Du coup, les avantages ou inconvénients dépendent énormément des personnes qui sont au pouvoir. puisqu'on pourrait profiter de l'intercommunalité pour augmenter les primes ou les diminuer. On peut en profiter pour augmenter les effectifs et combler ou les diminuer. Et du coup, les avantages ou inconvénients ne sont pas tellement liés à la base à l'intercommunalité, mais plus à la gestion de celles et ceux qui ont le pouvoir. Donc, pour l'agent, en soi, ça ne change pas grand-chose dans le sens où c'est quand même le pouvoir politique qui décide de son sort.
André Maurer, maire de Saint-Hilaire, quant à lui, évoque une consensualité politique au sein de sa communauté. Selon lui, elle représente un problème.
C'est assez consensuel, mais cette consensualité est quand même, à mon avis, très réductrice. Parce qu'au sein de l'agglo, on n'a pas les débats politiques qu'on devrait avoir, normalement. Donc, uniquement pour créer des groupes politiques, ça devient assez compliqué. Voilà. C'est consensuel, on s'entend bien. Donc, dès lors qu'on met des groupes politiques, ça veut dire qu'il y a potentiellement du conflit. Mais bon, moi, je pense que ça vient aussi plutôt d'échanges d'idées. Mais c'est très difficile à mettre en place. Je crois que c'est là où la démocratie est quand même un peu trop en retrait, à mon avis. Puisque s'il y avait une représentation plus directe, peut-être que là, les enjeux politiques seraient beaucoup plus importants.
Une autre limite des intercommunalités réside dans leur fonctionnement économique. André Maurer aborde la question du financement, de plus en plus réduit par l'État.
Alors là, l'intercommunalité est financée par les taxes, le produit des taxes économiques, donc la CFE, CVAE, TaxCom, enfin toutes les... Vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand Nicolas Sarkozy, le président Sarkozy, a fait éclater la taxe professionnelle, tout le monde dit c'est bien, il fait... mais sur le compost des taxes, naissent des taxes encore plus vigoureuses. Et c'est ce qui s'est passé avec la taxe professionnelle, puisqu'il y a eu une multitude de petites taxes à côté, et qui ont amené quand même des charges sur les entreprises autant qu'avant, quoi, pratiquement. Ceci dit, les exonérations successives sur les taxes économiques et même y compris la perte de la taxe habitation a beaucoup affaibli les communes et affaibli par là même les communautés de communes, même les communautés agglo aussi. Donc tout ça. Et ensuite, fait par les dotations de l'État, les DGF, enfin les dotations globales de fonctionnement. C'est une dotation qui est tirée du produit national de la TVA. La TVA, c'est l'impôt le plus injuste qu'il puisse avoir. Donc elle ramène beaucoup d'argent à l'État. Et notamment avec la crise, avec surtout quand vous payez un plein d'essence, vous payez de la TVA. Donc tout ce produit va à l'État et l'État le partage en plusieurs trucs, mais il le partage avec les collectivités. Il en distribue beaucoup sur les collectivités territoriales. Voilà, et après les subventions, bien entendu, sur les projets. Mais les subventions, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que si vous avez des gros projets, vous devrez avoir des grosses mises. Et souvent maintenant, les communautés d'agglomération sont impactés par la crise actuelle, mais sont impactés aussi par de plus en plus par les baisses des revenus liées aux réformes territoriales et les baisses des dotations, puisque il faut savoir quand même que, enfin pour notre commune, nous simplement, sous le gouvernement Hollande, on a perdu à peu près 40 000 euros chaque année de DGF. Voilà. Et ça, c'est quand même, c'est pas rien, hein. Pour une commune comme la nôtre, et y compris pour les communautés d'agglomération.
Thomas Barbie confirme cette idée.
On constate une baisse des intercommunalités depuis quelques années, car elles s'agrandissent en fait. Et du coup, là où il y avait peut-être deux intercommunalités avec cinq mairies chacune, vont fusionner pour en faire une seule de 10, pour des questions de budget. Il faut bien comprendre que le budget provient en grande partie de l'État. Quand il y a eu les différentes lois de décentralisation à partir des années 80, des députés de gauche, communistes en l'occurrence, s'y sont fortement opposés en expliquant très clairement « Vous décentralisez, mais vous ne donnez pas les moyens. » Et la réponse était « Ne vous inquiétez pas, l'État donnera toujours les moyens. » Effectivement, l'État a donné au début les moyens équivalents. C'est-à-dire, ça s'appelle les dotations. Et aujourd'hui, les intercommunalités vivent grâce aux dotations. Donc l'État a donné du pouvoir aux intercommunalités, mais n'a pas donné les recettes. Elle dit, vous faites les dépenses, mais les recettes vont d'abord dans notre poche et on vous les reverse après. Et mince, comble de malchance, aujourd'hui ils disent, oui, enfin les recettes, on vous les reverse, mais il ne faut peut-être pas déconner quand même, vous coûtez cher, on ne va pas tout vous reverser quand même. Et du coup, joue là-dessus et oblige au final les mairies et les intercommunalités à jouer sur les impôts locaux, puisque c'est le seul levier d'argent qu'ils ont. Donc si les amendes, par exemple, augmentent, si les impôts locaux augmentent, c'est parce que l'État ferme les vannes. Aujourd'hui, on supprime la taxe d'habitation. Très bien, on est content, on paye une taxe d'habitation en moins. Sauf que l'intercommunalité qui vivait en partie grâce à ça, si elle perd, j'invente, 10 millions d'euros, il faut bien qu'elle aille chercher ailleurs. Elle va augmenter la taxe foncière, par exemple. Ou elle va augmenter ci, ou elle va augmenter les prestations, la piscine va être plus chère, le CLAE va être plus cher, etc., etc. Donc au final, ce qu'on nous met dans la poche gauche, c'est parce qu'on vient de nous le prendre dans la poche droite.
Toujours concernant les budgets, ceux-ci sont également injectés de manière déséquilibrée entre les territoires, souvent au détriment des petites communes. André Maurer, maire de Saint-Hilaire.
On voit qu'il y a quand même des différences dans les aménagements économiques, où on privilégie les grands axes et on laisse de côté les petites communes, et qui pourtant aurait besoin de développement économique, ne serait-ce que pour, disons, atténuer les charges vers la communauté d'agglo. Enfin, pour comprendre, souvent, la communauté d'agglomération, elle prend toutes les taxes liées à l'économie dans toutes les communes, et ensuite elle fait la balance entre les services qu'elle rend aux communes. Si les services qu'elle rend aux communes coûtent plus cher que les taxes qu'elle ramène, la commune abonde le budget de l'intercommunalité. Dans le cas contraire, si vous avez une commune avec un fort développement économique, avec beaucoup de taxes dites économiques, et que vous avez moins, les services coûtent moins cher, c'est la communauté qui va donner de l'argent à la commune. Voilà. Par exemple, pour voir des cas extrêmes, pour Portet-sur-Garonne, la communauté reverse à peu près l'équivalent de 5 millions d'euros pour Portet. Et la commune de Saint-Hilaire, elle, par contre, va verser de l'ordre de 82 000 euros à la communauté d'Aglo. Mais ça me peut les pattes courtes, si je peux parler comme ça, car le gouvernement, lui, cisaille un peu, coupe l'herbe sous les pieds. Savoir que la réforme de la taxe professionnelle, les exonérations, etc., font que les rapports des taxes économiques deviennent de plus en plus difficiles. Et donc, les communautés vont se retourner de plus en plus vers les communes. Concrètement, pour la commune dont je suis le maire, là, c'est simple. Le projet de territoire dit pas de développement économique sur la commune de Saint-Hilaire. C'est pas le premier, c'est pas le, disons, la priorité. Voilà. Donc les grands axes sont privilégiés. Porté, Muret, Roque, et jusqu'au Fogat, enfin, puisque ce qui est en bordure de gare ou en bordure d'autoroute. Mais le reste, après, nous, on n'a plus rien. Pour installer des commerces, ça va être, si on n'a pas de surface, il faudra bien trouver une surface pour le mettre, mais ça ne sera pas la priorité de la communauté de communes ou la priorité d'agglomération.
Thomas Barbie et Bénédicte David, quant à eux, regrettent la diminution des effectifs de certains secteurs, conséquence directe de la baisse des budgets.
Malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui dans la réalité, c'est plutôt du négatif, c'est-à-dire une baisse du service public. On profite de mutualiser pour diminuer les effectifs. Si on était 5 là-bas et 5 ici, finalement, pourquoi être 10 au total ? On peut faire ça à 8, oh, puis à 7, oh, puis à 6, et puis finalement, on se retrouve à 5. Et malheureusement, c'est souvent ce qui arrive, une baisse des moyens dans la mutualisation.
C'est dommage parce qu'il y a les moyens, a priori, en théorie, puisque c'était quand même le but de ces regroupements de communes. On a vu tout le côté, on fait plein de travaux, on refait les trottoirs et tout ça, mais on se dit, mais tout cet argent-là, est-ce qu'il vaut mieux pas le réinjecter dans des secteurs où il y a une demande, encore une fois, un besoin humain de création de postes pour pouvoir accueillir des enfants ou des personnes âgées ou des personnes handicapées de la meilleure façon que ce soit, sans que les professionnels soient en souffrance, sans qu'on mette en attente des personnes en situation indigentes à certains moments. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre? Est-ce que l'argent est réinjecté au bon endroit?
Bénédicte David va plus loin. Elle évoque, en plus d'une baisse des budgets et d'une mauvaise répartition de ceux-ci, un manque d'information des usagers.
Mais après, je pense qu'il y a une méconnaissance du public de ce qui existe. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication, en fait, de... Voilà, il existe tel service, par exemple Maison France Service. Moi, pour y avoir été quelques temps, je l'ai découvert. Je ne savais même pas que ça existait. Et le public qu'on accueillait était étonné. On a eu souvent des personnes qui, en partant, nous ont dit « combien je vous dois ?» Donc on leur a dit « mais vous êtes dans un service public, donc vous ne nous devez rien, c'est un service gratuit ». Depuis le passage en interco, en EPCI, c'est un peu le flou artistique en fait. Ça a mis beaucoup de temps déjà, certaines communes ça s'est fait très vite. Ça s'est étalé je crois c'était un projet qui avait démarré bien avant. Et je crois que la date butoir c'était 2014 justement, donc ça s'est fait dans cette période-là, il y en a qui ont pris un peu plus de temps. Et on n'a pas trop su, en fait, comme vous dites, le terme est très juste, ça a été complètement silencieux. On en a entendu parler un petit peu, on a vu des changements au niveau, tout d'un coup, il y a des travaux dans la ville ou dans le village, mais les poubelles, le ramassage des ordures, c'est plus le mardi, c'est le jeudi, c'est plus Fronton, c'est Pêche-Bonnieu, on a vu des changements. Quand on s'intéresse, on va gratter un petit peu, on arrive à comprendre ce qui se passe. Mais sinon, on se laisse faire, quoi. Voilà. On voit les changements, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond, comment c'est payé, qui paye quoi, quelles sont les missions de l'Interco, de la mairie.
Thomas Barbie, d'Eurométropole Toulouse, complète ses propos.
Or, avec les intercommunalités, on est en plein là-dedans. Et c'est vrai que ça perd le public de qui fait quoi, quelles sont les attributions de chaque entité.
C'est un terme très juste, je trouve, c'est vraiment silencieux. Je pense qu'il faut être dans un état d'esprit de recherche, d'être curieux, d'aller gratter si on voit un article sur tel projet ou tel projet sur la commune, par exemple. Qu'est-ce que c'est? Donc, on va aller fouiller un peu, on va aller poser des questions. Quand on va à la mairie, par exemple, de regarder les petits prospectus qui existent, l'affichage. Mais si on n'a pas cette démarche-là, c'est ce que je vous dis, quel est l'outil de diffusion qui peut être approprié pour tout le monde? Et c'est vrai que si vous n'êtes pas dans cette démarche-là, d'aller chercher, de vous y intéresser, je trouve qu'il y a un vide, en fait. Moi-même, en tant qu'usager, quand je travaillais en crèche, je découvrais certaines choses par bouche à oreille en discutant avec des collègues du service compta, du service technique, de tel ou tel service. Ça me permettait d'avoir plusieurs infos sur le fonctionnement, vraiment le cœur de ce fonctionnement, ce à quoi on a droit, ce à quoi on peut accéder, comment y accéder, etc. Sinon, je trouve que c'est, pour les usagers, j'imagine que c'est le parcours du combattant. L'implication des usagers, moi de manière personnelle, je trouve qu'on, pour m'intéresser un petit peu quand même à ce qui se passe au niveau national évidemment, mais au niveau même territorial, on n'est pas bien informé, toujours pareil, si on ne va pas à la pêche aux infos, en tout cas c'est compliqué, il faut être curieux, il faut aller gratter, donc oui, il y a un problème en termes de diffusion de l'information et en termes d'électorat. On se sent pas forcément bien représenté, même quand on connaît un petit peu. Et je pense que les gens se désintéressent de ça, mais parce que, encore une fois, l'accès à l'information est compliqué. Voilà. Alors, c'est vrai qu'ils ont créé un petit fascicule, je pense, dans chaque commune maintenant. Chez moi, ça s'appelle l'Écho. Je sais qu'à Castelnau d'Estrettefonds aussi. Je ne sais pas au sein des autres communes ou des autres intercos comment ça s'appelle. Mais en tout cas, nous, on a le Labastidé pour la Bassine Saint-Cernin, et l'ECO, qui regroupe toutes les infos alors, sur plein de trucs, sur la vie associative, sur le budget va être réinjecté pour tels travaux. Il y a eu tels travaux qui ont été faits, la voirie, la réfection des trottoirs, l'établissement scolaire a été rénové. Voilà, on a plein d'infos à ce niveau-là. Sur la vie associative, qui propose tel ou tel service. Et puis après, tout ce qui est information de services existants. Alors, pas que public, ça regroupe aussi toutes les entreprises qui existent, tous les services, en fait, privés et publics qui peuvent exister sur le secteur. Donc, il y a quand même cet outil, effectivement, papier, pour le coup. Et puis après, tout se retrouve sur les sites des communes et des intercos aussi. On peut dire que c'est quand même... ils essaient d'avoir une transparence par rapport à ça, justement, où vont nos impôts. Bon, déjà, tout a augmenté, ça, je pense que tout le monde est au courant, que tout a les impôts, les factures, absolument tout. Je pense que nous, au nord de Toulouse, on est quand même un petit peu préservés par une grosse, grosse augmentation. Ça a augmenté, mais de façon raisonnable. On a quand même, je pense, une politique qui essaie de nous préserver un peu de tout cette explosion au niveau financier. Voilà, après, on peut accéder. Moi, ça m'est arrivé d'aller, par exemple, sur le site de l'Interco ou même de la mairie pour voir, tel budget a été voté pour refaire, par exemple, le tennis. Les cours de tennis ont été réaménagés avec tel budget, ça a coûté tant. Donc, en gros, voilà à quoi servent vos impôts, à refaire les cours de tennis. Bon, youpi, moi, je préférerais que ce soit réinjecté ailleurs. Mais bon, on ne nous demande pas trop notre avis. On va dire que c'est ça. D'où votre questionnement aussi sur comment réarticuler peut-être le système pour comment sont votés les budgets, qui permet de faire quoi avec cet argent-là. Donc peut-être que effectivement les usagers voudraient peut-être davantage donner leur avis sur comment utiliser leur argent, donc leurs impôts. Effectivement, ça serait judicieux, mais je crois que même au niveau national, de toute façon, ça fait quelques années qu'on se pose quand même la question.
Le manque d'implication des usagers que mentionne Bénédicte David s'illustre dans le dysfonctionnement du système démocratique des intercommunalités. André Maurer explique en quoi les habitants sont mis à l'écart du processus de décision, un problème majeur mettant en péril la pérennité des intercommunalités.
Alors, je pense que les enjeux politiques ne sont pas perçus par la population. La population, elle voit que l'intercommunalité prend en charge des services. Par exemple, ce sera l'enlèvement et le recyclage des ordures ménagères. Ça sera pour la communauté d'agglomération tout ce qui est le périscolaire. Ça sera pour l'eau. L'assainissement, ça c'est l'intercommunalité via les syndicats. Donc la population voit l'intercommunalité via ces services. Après les enjeux politiques, je ne pense pas que ce soit quand même au-delà du service, quoi. Moi, et pourtant ça devrait être un débat national, public. On met l'intercommunalité simplement sur le côté, l'aspect territorial, administration territoriale. Et je trouve que c'est très réducteur. On devrait parler intercommunalité avec le guide de la démocratie. Quelle démocratie pour nos territoires ? Et je pense qu'on verrait les choses tout à fait autrement. Quel est le fonctionnement démocratique de ces intercommunalités ? C'est là où je pense que ça blesse, quoi. Et on ne va pas au bout de ça. On veut concentrer sur des échelons plus grands, mais la démocratie, on ne met pas on n'habille pas ces trucs avec de la démocratie. C'est-à-dire on ne fait pas des élections directes sur les élus qui siègent dans ces conseils communautaires, même le président, puisque le président est élu indirectement par le conseil communautaire. Et pour moi, c'est vraiment un enjeu essentiel. Et je pense que là aussi, c'est un enjeu silencieux qu'on n'arrive pas à mettre en exergue. Et je crois que ça va être quand même très, très, très important dans les années à venir.
Thomas Barbie partage l'avis du maire de Saint-Hilaire.
C'est au final une sorte de révolution silencieuse qui se passe, puisque c'est au détriment des usagers, mais au détriment même de leur information. Combien nous disent « ça mérite Toulouse ». Et à chaque fois, je leur dis « non, c'est la métropole ». « Ah ben c'est pareil ». Et non, ce n'est pas exactement pareil. Oui, il y a beaucoup de similitudes, et c'est entretenu là-dessus, mais il y a aussi des différences de compétences, de budget, etc. Et au final, ça éloigne petit à petit le citoyen de la démocratie, puisque le citoyen ne vote pas aujourd'hui pour ses élus métropolitains. Il ne vote que pour ses élus locaux de la mairie. Et aujourd'hui, donc, quand vous habitez à Toulouse et que vous votez sur Toulouse, aux élections municipales, vous ne votez pas que aux élections municipales, même si à côté il y a marqué lesquels seront élus à la métropole, vous n'avez pas le choix de dire c'est moi qui choisis lesquels je veux voir élus à la métropole. C'est lié. Donc vous votez finalement que pour la liste, pour le maire finalement. Et tout ça, donc, c'est au détriment du citoyen. Et aujourd'hui, il y a vraiment cette hypocrisie qui joue là-dessus où ah ben nous on peut rien y faire. C'est l'État, ben nous on peut rien y faire, c'est l'intercommunalité, ou c'est le département, ou c'est la région, ou c'est ci, ou c'est ça. Et on renvoie la balle, bien évidemment, à chaque fois sur l'autre. Alors, la moindre des choses pour la démocratie me paraît que oui, on met en place une élection. D'ailleurs, c'était envisagé. Alors, je vous avoue que je ne sais pas où ça en est, si c'est reporté ou si c'est abandonné, mais à un moment, il était envisagé, en tout cas, qu'il y ait deux votes au moment des élections municipales, que ce soit les élections municipales et intercommunales, et donc qu'on puisse voter différemment pour la liste pour le maire et la liste pour le ou la présidente de l'intercommunalité. C'est, il me semble, la base de la démocratie, qu'on puisse élire ses représentants. Comme on est passé du suffrage indirect au suffrage direct pour le président de la République, il devrait avoir un suffrage direct pour les élus ici métropolitains et ailleurs de l'intercommunalité. Je pense que pour amener un peu plus de démocratie, outre les élections directes des élus des intercommunalités, il faudrait moins d'obligations légales. Aujourd'hui, l'État impose. On ne peut pas être dans une intercommunalité. C'est impossible aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de très nombreuses règles, et assez compliquées d'ailleurs, mais donc beaucoup d'obligations. Donc on impose aux collectivités, et s'il n'y a pas de terrain d'entente, c'est le plus fort, entre guillemets, ou le plus gros qui gagne. Si les intercommunalités avaient la possibilité de choisir ce qu'elles souhaitaient faire et avec qui elles souhaitaient le faire, ça se passerait beaucoup mieux. On veut partager l'eau de manière publique. 1, 2, 3 et 4 sont d'accord, 5, 6, 7 ne le sont pas. Et bien 1, 2, 3 et 4 le font, 5, 6 et 7 ne le font pas. Et peut-être que 5, 6 et 7 se rendront compte que ah ben finalement ça a l'air sympa leur truc, maintenant que ça fait quelques années, on va les rejoindre ou pas. Et sur les déchets, ben 1, 2 et 3 sont d'accord avec 6, 7. On va se mettre ensemble, mais pas avec 4 et 5, parce que là, sur ce coup-là, ils ne sont pas d'accord. Pour l'instant, ce n'est pas possible, parce qu'il y a tout un tas de compétences qui sont obligatoires. Notamment, au plus, en fait, au plus c'est grand, au plus il y a des compétences obligatoires, et donc au moins il y a de liberté de choix.
Face aux limites que présentent les organisations intercommunales, il est légitime de questionner la pérennité de tels systèmes. Comment envisager le futur des intercommunalités ? Thomas Barbie, de l'Eurométropole Toulouse, se prononce sur ce point.
Demain, si on faisait un grand bond en arrière et qu'on supprimait les intercommunalités, il y aurait des points positifs, mais aussi des points négatifs. Je pense clairement que pour beaucoup de petites communes, ce serait une grosse perte. Maintenant, pour certaines grosses structures, ça pourrait permettre de recentrer un peu plus proche du citoyen. Aujourd'hui, par exemple, à Toulouse Métropole, nous avons un maire-président donc, qui est le même, à la mairie de Toulouse et à la métropole, M. Jean-Luc Moudin en l'occurrence. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des ressources humaines qui sont communes. Il y a plusieurs centaines d'agents quand même, hein, qui sont et métropole et mairie de Toulouse aujourd'hui, et qui appliquent donc la même politique économique, budgétaire, etc., etc., tant à la métropole qu'à la mairie. Imaginons si demain, démocratiquement, Toulouse et la métropole n'avaient pas le même bord politique. L'un à gauche, l'un à droite, peu importe lequel des deux, et donc mener deux politiques différentes. Comment vont faire les ressources humaines ? Alors, toi, tu es agent mairie, donc tu dois avoir plus de monde, et toi, tu dois avoir moins, toi, je t'augmente la prime, mais toi, non. Ils peuvent pas. Et comment comment ils sont répartis, puisqu'ils vont, enfin, c'est inconcevable. Et donc, du coup, on dit on peut pas écouter la démocratie. C'est quand même aberrant aujourd'hui en France de se dire on ne peut pas, si demain la démocratie s'exprime de cette manière-là, on ne pourra pas l'appliquer à Toulouse. C'est quand même quelque chose de fou. Le futur de l'intercommunalité semble quand même assez sombre, en tout cas pour les agents et pour le public, tant que la politique qui est menée aujourd'hui continuera, c'est-à-dire une politique d'austérité qui a été commencée officiellement sous Hollande, hein, et qui continue aujourd'hui avec le président Macron. Cette baisse des budgets constante pour les intercommunalités et pour les communalités, enfin, je veux dire, les mairies aussi subissent la baisse des dotations, hein, il n'y a pas que les intercommunalités. Ben, ils doivent le répartir sur les agents et donc sur le service public. Aujourd'hui, on mutualise à tout va, mais on mutualise des équipes qui ne sont pas complètes. Donc ça ne peut pas fonctionner. On a des aberrations des bêtes, enfin des clichés limites du service public. Il y a des clubs de prévention donc, qui s'occupent des jeunes en grande difficulté. Ça peut aller jusqu'à de l'inceste, des viols, de la pédophilie. Enfin, je veux dire, c'est pas que ça, fort heureusement pour eux, mais ça arrive dans leur travail. Donc, c'est un travail de longue haleine dans des quartiers difficiles pour gagner la confiance de jeunes en difficulté. Ça prend des années. Aujourd'hui, parce que certains ne veulent pas utiliser un logiciel qui risque de leur être imposé, on leur dit fin de contrat. Parce qu'il y a beaucoup de CDD là-dedans, on leur dit fin de contrat. Et du coup, ils se retrouvent dans des équipes où ils devraient être 4 minimum pour pouvoir tourner dans des quartiers où il y a de la drogue, où il y a des tirs pas quotidiens, mais enfin, où il y a des morts. C'est un métier difficile, dangereux, etc. Et on leur dit, ben, vous serez que 2, c'est pas grave. Mais comment ça, c'est pas grave, enfin, comment la qualité de service public peut être rendue? Une personne ne peut pas s'occuper de 60 jeunes à la fois. Donc enfin, si on lui dit tu récupéreras les jeunes de celui qui dégage, comment il va s'en sortir? Alors soit il en fait 60 et il n'y a aucune qualité, donc une perte de la qualité, soit il garde les 30 à peu près qu'il avait, c'est pas un chiffre rond hein, bien évidemment, mais et il y en a 30 qui sont perdus. Donc il y a une baisse de la qualité et aujourd'hui c'est dû à ces politiques, ces baisses de moyens et on va droit dans le mur, en tout cas à la métropole, où on nous pond un projet Proxima qui touche 3500 agents et où les agents sont complètement perdus là-dedans, où on en profite bien évidemment pour revoir toutes les missions et donc rajouter du travail à chacun et dire c'est bon, tous les postes sont comblés puisque regardez, toutes les missions sont mises sur une fiche de poste, sauf que les agents ne pourront jamais tenir là-dessus. Jamais. Au départ, la CGT s'est opposée à la création des intercommunalités, en sachant très bien qu'il y avait ce piège des dotations qu'on voit aujourd'hui. Hein. C'est 40 ans plus tard quasiment, mais on peut dire 40 ans plus tard, voyez, encore une fois, on avait raison. Mais on le dit quasiment tous les jours à l'administration, on avait raison.
Le maire de Saint-Hilaire, André Morère, est sans appel. Il faut repenser l'association des habitants à la vie politique des intercommunalités afin d'assurer le futur de celle-ci.
Sur des enjeux d'aménagement, par exemple les transports, sur tout le développement économique, tout ça, ça devrait y avoir, on devrait être, la population devrait être mieux, associée. Bon, après, on peut dire que c'est le rôle des communes de faire le relais des communautés d'agglomération. Bon, on le fait plus ou moins bien. Bon, nous, on essaye de le faire. Et puis après, vous savez, on a toujours la tête à le guidon dans la commune, la communauté d'agglo. C'est un peu difficile. Voilà. Mais je pense qu'il va falloir avoir plus de clarté sur les élections, notamment pour ces structures-là. Alors, je sais que ça heurte quand je dis ça, mais un jour il va falloir bien y penser à ça parce qu'autrement on ne va pas pouvoir continuer à avoir des structures assez puissantes de deuxième degré comme ça, sans liaison, sans lien direct avec les habitants et le vote. Après, je vous dis, les communes ont vécu avant les intercommunalités. Si on nous dit, l'intercommunalité se disloque, le problème, c'est au cours de la dislocation que nos finances soient disloquées. C'est surtout ça, et que ne retrouve pas le montant qu'on verse à la communauté ou ce qui est versé. C'est surtout ça. Après, je pense que l'intercommunalité a mené quand même les communes à réfléchir au-delà de leurs frontières, à avoir une vision d'ensemble un peu de leur environnement. Et ça, c'est quand même un acquis important qu'on ne doit pas, mettre à renier. Je crois que vivre seul, tout seul dans son coin, c'est illusoire. Ça n'a jamais été d'ailleurs. Hein. Les communes ont tout le temps, comme je vous l'ai dit au début, tout le temps fonctionné avec leurs voisines en créant des... Et d'ailleurs, le milieu agricole, puisque c'était ça avant, avaient des coopératives, avaient de l'irrigation en commun. Il y avait, c'était la coopération dans les communes existait bien avant, quoi. Donc.
Révolution silencieuse. Ainsi pourrait-on qualifier la situation des intercommunalités d'aujourd'hui. Silencieuse, c'est l'impression que donne cette fusion aux habitants qui se sentent mis à l'écart des projets intercommunaux. Pourtant, des initiatives sont bel et bien mises en œuvre et visibles dans l'espace public. Rénovation des routes, construction de nouveaux aménagements, mise en place de services de transport et d'accueil du public. Il semblerait donc que le problème réside moins dans le manque d'ambition des intercommunalités que dans son fonctionnement interne, dans la manière d'allouer les budgets, d'intégrer les habitants à la vie intercommunale. Ainsi, des lacunes évoquées surgissent des pistes d'amélioration claires qu'il s'agit de mettre en œuvre afin qu'un avenir soit possible pour les intercommunalités. Dans ce documentaire sonore, nous avons eu le plaisir d'interroger trois acteurs locaux. Monsieur Thomas Barbie, syndicaliste d'Eurométropole Toulouse, Monsieur André Maurer, maire de Saint-Hilaire, et Madame Bénédicte David, usagère et professionnelle de la communauté de communes des Coteaux de Bellevue. Un grand merci à eux.
C'était Radio Trip en Occitanie, un road trip radiophonique en ruralité à la rencontre des acteurs du monde rural. Les radios du CRLO ont quitté leur département de diffusion pour aller à la rencontre de nos campagnes afin que ces acteurs puissent s'exprimer sur les difficultés mais aussi les réussites de cet arrière-pays qui doit faire face aux mouvements de la société et les difficultés qu'elle provoque. Mais le monde rural ne s'en laisse pas compter et trouve des réponses avec l'engagement de ses citoyens et de sa population de façon exemplaire. Radio Trip en Occitanie, une série de 12 documentaires proposés par les radios du CRLO en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Retrouvez l'intégralité de ces 12 documentaires en podcast sur les sites web des radios du CRLO ou sur le site du CRLO www.crlo.fr.